Le moment de passer d'une vision à l'autre approchait. Le mouvement des truites des sables était comme intérieur à son corps. Durant des générations, les Fremen avaient vécu à proximité de ces étranges créatures. Ils savaient qu'un peu d'eau pouvait être l'appât qui les attirerait à portée de la main. Bien des Fremen, près de mourir de soif, avaient risqué quelques précieuses gouttes d'eau à ce jeu, pour le sirop vert et douceâtre que sécrétait la truite et qui pouvait leur procurer un apport d'énergie. Mais les truites faisaient surtout la joie des enfants qui les capturaient pour le huanui, et par jeu. Leto frissonna en songeant à ce que ce jeu signifiait pour lui désormais. L'une des créatures rampa près de son pied nu. Elle hésita, puis reprit sa progression, attirée par l'énorme quantité d'eau retenue dans le canat. Durant un instant, pourtant, Leto avait senti la réalité de sa terrible décision. Le gant de la truite. C'était un jeu d'enfant. Si l'on tenait une truite dans sa main, en la lissant doucement sur sa peau, elle se transformait en un gant vivant. Elle était attirée par les traces de sang présentes dans les capillaires, mais quelques substances présentes dans l'eau du sang la repoussaient. Tôt ou tard, elle tombait dans le sable et on la jetait dans un panier de fibres d'épices. L'épice la calmait jusqu'à ce qu'on la place dans le distill de mort. À présent, Leto écoutait les truites tomber dans l'eau du canat, et il percevait les remous des poissons prédateurs qui se précipitaient sur elle pour les dévorer. L'eau avait le pouvoir d'assouplir les truites, de les rendre molles. Les enfants Fremen apprenaient cela très tôt. Une goutte de salive suffisait à provoquer la sécrétion du sirop. Leto prêtait l'oreille à tous les sons qui venaient du canat. Ils étaient provoqués par une migration de truites attirées par l'eau libre, mais dans le canat, les créatures étaient impuissantes face aux poissons. Pourtant, sans cesse, elles affluaient et plongeaient. Il enfouit sa main droite dans le sable jusqu'à ce que ses doigts rencontrent le cuir d'une truite. Elle était aussi grosse qu'il l'avait souhaité. Elle ne tenta pas de lui échapper, adhérant avec avidité à sa chair. De sa main libre, il palpa la créature. Elle avait à peu près la forme d'un diamant, ni tête ni extrémité. Pas Dieu, et pourtant elle savait trouver l'eau sans se tromper. Les truites pouvaient se souder l'une à l'autre par leurs cils rudimentaires, jusqu'à ne former qu'un seul et vaste organisme sac, emprisonnant l'eau, isolant ainsi le poison de ce géant que la truite deviendrait plus tard, Shai-Hulud. Dans sa main, la truite se tortilla, s'allongea, se déforma. Dans le même instant, il eut l'impression qu'une contrepartie de la vision qu'il avait choisie s'allongeait, se déformait. Ce fil, pas celui-ci, pensa-t-il. Il sentit que la truite se faisait de plus en plus mince, recouvrant rapidement sa main. Jamais aucune truite n'avait rencontré de main comme celle-là, dont chaque cellule était saturée d'épices. Et jamais aucun humain n'avait vécu et pensé dans de telles conditions. Leto réajusta délicatement l'équilibre de ses enzymes, se fondant sur la certitude lumineuse qu'il avait acquise dans la transe d'épices. La connaissance issue de ces vies sans nombre qui se mêlaient en lui, lui donnait l'assurance avec laquelle il décidait d'ajustements précis, repoussant la mort par surdose qui le menaçait s'il relâchait sa vigilance, fût-ce le temps d'un battement de cœur. Et dans le même temps, il se mêlait à la truite de sable. Il se nourrissait d'elle. Elle le nourrissait, l'enseignait. La vision de la transe lui fournissait une jauge, et il s'y conformait exactement. Il sentit que la truite des sables se faisait de plus en plus mince, s'étendant sur toute sa main, atteignant son avant-bras. Il en découvrit une autre, qu'il plaça sur la première. En se rencontrant, les deux créatures s'agitèrent frénétiquement. Leurs cils se soudèrent, et elles ne firent plus qu'une membrane unique qui l'enveloppait jusqu'au coude. La double truite était désormais le gant vivant du jeu d'enfant, mais sa texture était plus fine, sa sensibilité plus grande. Leto s'en était fait un symbiote dermique. Il bougea son bras et toucha le sable de l'extrémité de son gant vivant. Il éprouva le contact distinct et net de chaque grain. Il n'y avait plus de truite des sables. Ce qui enveloppait sa main était quelque chose de plus résistant, de plus dur. Sa main rencontra une troisième truite qui se colla aux deux autres et s'adapta aussitôt à son nouveau rôle. La nouvelle peau de cuir doux gagna l'épaule de l'étau. Pour empêcher tout rejet par un terrible effort de concentration, il réussit à unir son corps à cette peau nouvelle. Il ne laissa pas dériver la moindre parcelle de son attention vers les conséquences terrifiantes de ce qu'il accomplissait en cet instant. Seul importaient les impératifs de la vision de la transe. Seul le sentier d'or pouvait naître de cette épreuve. Il rejeta sa robe et resta étendu sur le sable, nu, son bras ganté étendu sur le passage des truites migrantes. Il se rappelait qu'avec Ganima, ils avaient capturé une truite et qu'ils l'avaient frottée sur le sable jusqu'à ce qu'elle se contracte en un ver enfant. Un tube rigide dont l'intérieur était imprégné de sirop vert. Il suffisait de mordre une extrémité et d'aspirer avant que la plaie se referme pour recueillir les quelques gouttes de nectar. Les truites avaient recouvert son corps à présent. Il percevait l'écho de la pulsion de son sang contre la membrane vivante. Une d'elles entreprit de couvrir son visage, mais il la repoussa énergiquement et la truite s'étira jusqu'à former un mince tube. C'était maintenant une créature plus longue que le ver enfant. Elle restait flexible. L'étau mordit l'extrémité et un mince filet de nectar jaillit dans sa bouche. Une énergie nouvelle se développa en lui. Jamais l'expérience ne s'était autant prolongée de mémoire de Fremen. Une excitation étrange se répandit dans tout son corps. Il dut lutter un long moment pour repousser à nouveau la membrane jusqu'à ce qu'elle forme un bourrelet dur encerclant ses maxillaires et remontant jusqu'à son front, mais laissant ses oreilles découvertes. À présent, il devait éprouver la vision. Il se leva et retourna vers la hutte, prenant conscience que ses pieds se déplaçaient trop vite pour qu'il puisse garder l'équilibre, et il roula dans le sable. Il se redressa d'un bond et s'éleva à plus de 2 mètres du sable. Lorsqu'il retomba et essaya de marcher, ses mouvements furent encore trop rapides. « Arrête !» pensa-t-il. Il s'abîma dans la relaxation pranabindu, rassemblant ses sens dans la fontaine de la conscience. Il vit alors nettement les rides intérieures du « maintenant perpétuel » par lequel il faisait l'expérience du temps, et il se laissa emporter par la tiède ivresse de la vision. La membrane fonctionnait exactement comme la vision l'avait prédit. « Ma peau n'est pas la mienne. » Mais il devrait entraîner ses muscles à la nouvelle ampleur de ses mouvements. Une fois encore, il voulut marcher et tomba, roulant dans le sable. Il s'assit. Le bourrelet vivant sous sa mâchoire se déploya vers sa bouche. Il le mordit et le jus sucré de la truite coula sur sa langue. Sous la pression de sa main, la membrane s'enroula vers le bas. Il s'était écoulé suffisamment de temps pour que l'union avec son corps soit réalisée. Il s'étendit à plat ventre et se mit à ramper, frottant la membrane vivante sur le sable. Il percevait chaque grain, mais aucun ne mordait sa chair. En quelques mouvements de natation, il eut franchi bientôt 50 mètres de sable. L'effet de friction lui procura une sensation de tiédeur. La membrane, à présent, n'essayait plus de recouvrir son nez et sa bouche. Maintenant, il devait faire un pas de plus, un pas majeur vers son sentier d'or. En rampant, il était arrivé au-delà du Kanat, dans le canyon où le ver était prisonnier. Il l'entendait siffler, se tourner vers lui, attiré par ses mouvements dans le sable. L'étau se mit sur pied avec l'intention de l'attendre debout, immobile, mais son mouvement le projeta à plus de 20 mètres vers l'intérieur du canyon. Avec un terrible effort, il parvint à maîtriser ses réactions, s'assit sur les fesses et se redressa. Là-bas, droit devant lui, sous la clarté des étoiles, le sable bouillonnait en un monstrueux mascaret. Le sable s'ouvrit à 2 longueurs de corps de l'étau. Des dents de cristal scintillèrent dans la faible lumière. Une caverne vivante béa, et il discerna dans ses profondeurs une pâle flamme. Le souffle lourd de l'épice passa sur lui, mais le ver ne bougeait plus. Il restait là, immobile, tandis que la première lune lentement se levait sur la butte. Sa clarté dessina chacune des dents de la créature, soulignant la danse lumineuse des feux chimiques, loin dans ses entrailles. La peur était si profondément enracinée en tout Fremen que Leto se trouva déchiré entre sa volonté de faire front et un désir violent de fuite. Mais sa vision lui imposa l'immobilité. Il était fasciné par cet instant qui se prolongeait. Personne ne s'était jamais trouvé aussi près de la gueule d'un ver et n'avait survécu. Doucement, il déplaça son pied droit, rencontra une ride de sable et, réagissant trop vivement, fut projeté vers la gueule du ver. Il se retrouva à genoux. Le ver n'avait toujours pas bougé. Il ne sentait que la présence de la truite des sables et n'attaquerait pas ce vecteur de sa propre espèce. Le ver pouvait attaquer un autre ver sur son territoire. Il pouvait se précipiter sur les gisements d'épices. Seule une barrière d'eau était à même de l'arrêter. Et la truite des sables, qui isolait l'eau, était une telle barrière. À titre d'expérience, Leto tendit la main vers la gueule terrifiante. Le ver battit en retraite d'un bon mètre. Reprenant confiance, Leto se détourna du ver et se mit en devoir d'enseigner à ses muscles l'art d'employer leur nouvelle puissance. Lentement, il retourna vers le Khanat. Le ver demeurait immobile. Quand Leto eut franchi la frontière de l'eau, il bondit de joie et se retrouva 10 mètres plus loin, riant et roulant dans le sable. La lumière jaillit. Sabiha venait d'ouvrir le seau d'humidité de la hutte. Sa silhouette apparaissait sur le fond lumineux, jaune et mauve, de la lampe à huile. Sans cesser de rire, Leto refit le chemin en sens inverse, bondit par-dessus le Khanat, revint se planter devant le ver, puis se tourna et fit face à Sabiha en ouvrant les bras. « Regarde, le ver est à ma merci !» Immobile, silencieuse, elle ne pouvait détacher ses yeux de lui. Une fois encore, il s'élança sur le sable, une fois encore, il frôla le ver. Puis il s'avança dans le canyon. Il s'habituait à sa nouvelle peau. Il découvrit bientôt qu'il pouvait courir en sollicitant à peine ses muscles, presque sans effort. Au premier effort véritable, il volait littéralement, et le vent crépitant brûlait la partie exposée de son visage. Au bout du canyon, il ne s'arrêta pas. Il fit un saut de plus de 15 mètres de haut, et ses mains agrippèrent le rocher. Il se mit à grimper comme un insecte, ses doigts changés en grappins, et surgit bientôt sur la crête qui dominait le Tanzeruft. Devant lui s'étendait le désert et ses ondes argentées sous la lune. Sa joie folle commençait à s'estomper. Il s'accroupit, conscient de l'extraordinaire légèreté de son corps. Une fine pellicule de sueur s'était formée sur son visage. Un distil l'aurait aussitôt absorbé et dirigé vers le tissu de transfert qui en aurait extrait les éléments salins. Comme il se détendait, la sueur soudain disparut, absorbée par la membrane vivante plus vite que ne l'eût fait un distil. Pensif, il attira un peu de la membrane entre ses lèvres, mordit et absorba le nectar. Sa bouche demeurait à l'air libre. Avec sa sensibilité fremen, il ressentait le gaspillage d'humidité que représentait chaque expiration. Il prit alors une partie de la membrane et l'appliqua sur sa bouche, l'obligeant à laisser ses narines à découvert. Il adopta la respiration du désert, inspirant par le nez, expirant par la bouche. La membrane forma une petite bulle sur ses lèvres, mais demeura en place. Il n'eut bientôt plus d'humidité sur ses lèvres et ses narines demeuraient libres. L'adaptation se poursuivait. Un orni glissa dans le ciel entre Leto et la lune, fit un virage et se posa, aile déployée sur la butte, à moins de 100 mètres sur sa gauche. Leto l'observa un instant avant de regarder vers le canyon, dans la direction d'où il était venu. Là-bas, par-delà le Khanat, il distinguait un balai de lumière, une multitude. Il entendit des appels, décela l'écho de la panique. Deux hommes étaient descendus de leur nid et maintenant ils couraient vers lui. Le clair de lune faisait briller leurs armes. Le Mashhad, songea Leto. Et c'était là une triste pensée. C'était le grand bond vers le sentier d'or. Il avait revêtu le vivant distil d'une membrane faite de truites des sables. Une chose dont la valeur était inestimable sur Arrakis. Aussi longtemps que l'on n'en comprenait pas le prix réel, je ne suis plus humain. La légende de cette nuit ne fera que croître et embellir, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus reconnaissable par ses acteurs mêmes. Mais elle deviendra la vérité, cette légende. Il regarda vers le bas de la butte. Le désert, estima-t-il, était bien à 200 mètres en dessous. Le clair de lune révélait des saillies et des anfractuosités sur la pente raide, mais aucun cheminement possible. Il se redressa, prit une inspiration profonde, lança un dernier regard vers les hommes qui approchaient, puis s'avança jusqu'au bord de la falaise et s'élança dans l'espace. 30 mètres plus bas, ses jambes repliées rencontrèrent une étroite saillie. Ses nouveaux muscles absorbèrent le choc et il rebondit sur le côté vers une autre saillie. Il s'accrocha brièvement des deux mains, lâcha prise, tomba de 20 mètres, se rattrapa une fois encore, et une fois encore tomba, rebondit, agrippa une saillie, tomba plus bas. Il franchit les 40 derniers mètres d'un seul saut, se reçut en position accroupie et roula au flanc d'une dune dans un jaillissement de sable et de poussière. Il se redressa dans le creux et bondit aussitôt vers la crête suivante. Des cris rauques lui parvenaient du sommet de la butte, mais il ne se retourna pas, se concentrant sur sa progression, bondissant d'une crête à l'autre. Il s'habituait à sa nouvelle force, et il y puisait à présent une sorte de joie sensuelle qu'il n'avait pas prévue à l'instant où il s'était élancé du haut de la butte. Il défiait le Tanzeruft, comme nul ne l'avait jamais fait dans ce balai au-dessus du désert. Quand il jugea que l'équipage de l'Orni avait surmonté le choc, et que la poursuite allait s'organiser, il plongea vers le flanc obscur d'une dune et s'y enfonça. Pour sa force nouvelle, le sable était comme un liquide épais. Mais il progressait trop vite et la température s'élevait dangereusement. Il émergea de l'autre côté de la dune et s'aperçut que la membrane avait réussi à recouvrir ses narines. Il l'écarta et perçut la pulsation de sa nouvelle peau sur tout son corps, tandis qu'elle absorbait sa transpiration. Il fit un tube de la membrane et aspira le sirop sucré tout en contemplant le ciel étoilé. Il avait dû parcourir environ 15 kilomètres depuis Shulok. La silhouette d'un orni apparut sur le fond des étoiles, puis un autre, et un autre encore. Il entendit le chuintement de leurs ailes et le doux sifflement de leurs tuyères. Il attendit, tout en absorbant le nectar de la truite. La première lune descendit vers l'horizon. La seconde lune lui succéda. Une heure avant l'aube, il rampa hors du sable et gagna la crête. Il examina le ciel. Il n'y avait pas un chasseur en vue. À présent, il le savait, il suivait un chemin sans retour. Devant lui, l'attendait ce piège de l'espace et du temps qui avait été conçu pour être une leçon que ni lui ni l'humanité n'oublieraient jamais. Il prit la direction du nord-est et parcourut encore une 50aine de kilomètres avant de s'enfouir dans le sable. Le jour allait venir. Il ménagea un trou minuscule en surface, auquel il était relié par un tube confectionné dans la membrane. La membrane apprenait à vivre avec lui tout comme il apprenait à vivre avec elle. Il essayait de ne pas penser aux autres transformations qu'elle opérait dans sa chair. « Demain, se dit-il, j'attaquerai Gararolen. Je briserai leur canate et je répandrai son eau dans le sable. Ensuite, j'irai à la passe du vent, à la vieille faille, puis à Harg. D'ici à un mois, la transformation écologique aura reculé d'une génération. Cela nous donnera assez d'espace pour développer le nouveau programme. On accuserait les tribus rebelles, bien sûr. Certains se souviendraient de Jakurutu. Alia aurait du travail. Quant à Ganima, en silence pour lui-même, Leto formula les mots qui réveilleraient sa mémoire. Mais cela viendrait plus tard, s'il survivait à ce terrible mélange des fils de la causalité. Le Sentier d'Or l'appelait. C'était comme une présence physique au milieu du désert. En ouvrant les yeux, il parvenait presque à le voir. À présent, il le définissait ainsi. Tout comme les animaux se déplacent sur la terre, car leur existence dépend de ce déplacement, l'âme de l'humanité, bloquée depuis des éons de temps, avait besoin d'un chemin sur lequel progresser. Il pensa alors à son père et se dit « Bientôt, nous discuterons d'homme à homme, et une seule vision en émergera ».